Bonjour à tous, bienvenue pour les intrigues urbaines proposées toute la semaine par Radio Grenouille autour du thème Bellevue Monument. Nous apprendrons aujourd'hui dans l'émission Mon Quartier les problématiques de la vie dans un quartier de Marseille au travers de témoignages de politiques, d'acteurs sociaux, de professionnels mais également d'habitants. Avant d'entrer dans ces questions concrètes que nous aurons l'occasion de voir tout au long de cette journée, il est important de comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle politique de la ville, grand projet de ville, réhabilitation et comprendre aussi le cadre juridique qui régit les questions de participation, d'urbanisme et cibler les dispositifs mis en place par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Tout un programme. Et entrons directement dans le vif du sujet en commençant par le terme politique de la ville. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Alors la politique de la ville, aujourd'hui, elle apporte des solutions aux problèmes d'exclusion sociale et améliore normalement le cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers en difficulté. Alors, politique de la ville, trois périodes se distinguent. De 1970 à 1990, ces années-là sont marquées par les années béton. Les conséquences de la crise pétrolière de 1974 sont néfastes pour l'économie. Il faut réhabiliter les bâtiments. Malgré cette prise de conscience, les quartiers se rebellent. Au début des années 80, c'est juillet noir. Les violences mettent en évidence les difficultés des quartiers. Il ne s'agit pas seulement de vieillissement des immeubles, mais il y a aussi des problèmes économiques, sociaux, beaucoup plus complexes qui se concentrent sur cet espace limité. Et oui, le quartier. Dans cette situation, le gouvernement réagit, peut-être un peu tard, et décide d'engager quatre principes. Le premier, c'est la solidarité nationale. Le deuxième, il faut responsabiliser les collectivités locales. Il faut avoir une démarche ouverte vers l'éducation, l'emploi, l'insertion sociale, la santé et la culture. Le résultat aujourd'hui se voit. Trois petits points. Et favoriser la participation des habitants et des associations. Des grands mots. En 1990, le quartier passe à l'agglomération. Le contrat de plan est abandonné au profit des contrats d'agglomération. Cette transformation a pour objet d'accroître l'efficacité des interventions publiques. 214 contrats de ville seront signés en 1994. Les années 2000 marquent un renouveau, une nouvelle ambition, dit-on, dans les quartiers. Quatre thèmes prioritaires sont avancés et toujours les mêmes. L'accès à l'emploi, le développement économique, l'éducation, la sécurité et la prévention. Et enfin, on parle de renouvellement urbain. Alors, quelles structures sont compétentes aujourd'hui ? Au niveau national, il existe le Comité interministériel des villes et du développement social urbain. Ça fait déjà long. Cette instance arrête les orientations, définit les programmes et répartit les moyens. Il existe aussi le Conseil national des villes et du développement social urbain, encore très long, qui est une instance de réflexion politique qui associe élus et personnes qualifiées. Au niveau local se trouve le préfet de région ou de département qui sont chargés d'assurer la mise en œuvre de la politique de la ville. Le sous-préfet, lui, quant à lui, coordonne l'action de l'État au plan départemental. Mais au cœur de ces ambitions politiques, les grands projets de ville lancés en 2001 visent à réinsérer un ou plusieurs quartiers dans leurs agglomérations, améliorer les conditions de vie des habitants, transformer l'image, la perception du quartier et redonner une valeur économique au territoire. Telles sont les ambitions de ces grands projets. La conception menée à l'origine avec les habitants concilie des interventions ayant un impact rapide sur la vie quotidienne et des actions qui s'inscrivent sur le long terme. Leurs ambitions sont un renouvellement de l'offre de logement, une implantation de services publics et de services collectifs et une amélioration de la desserte en transport, ce qui aujourd'hui n'est pas inutile. Monsieur Deschaux, responsable du projet de ville sur le territoire marseillais, balayer les différents aspects et objectifs du projet de ville.
Le grand projet de ville a pris la suite du grand projet urbain sur un territoire beaucoup plus large, puisqu'il couvre maintenant 5000 hectares où habite un quart de la population marseillaise. Et comme l'avait fait le GPU avant lui, il vise à la fois à réduire les disparités urbaines, économiques, sociales dont souffrent les quartiers nord et ses habitants, mais aussi à préparer ces quartiers à être porteurs d'un développement futur au sein de l'agglomération marseillaise.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une façon de penser la ville ?
Actuellement, on essaie de faire un petit peu du replâtrage par rapport à l'urbanisation passée, qui a sacrifié un peu ces espaces des quartiers nord, qui bénéficiaient donc de beaucoup de disponibilités foncières. Et donc, au gré des besoins, on a planté ça et là des activités économiques, des grands ensembles, sans vraiment penser aux liens qu'il y avait entre toutes les composantes d'une ville, composantes qui doivent permettre à ces territoires-là d'être un lieu de rencontre entre plusieurs catégories de population, un lieu où les gens habitent, un lieu où les gens travaillent, un lieu où les gens ont des services, où les gens puissent se distraire, où on fait que l'ensemble de ce que peut attendre une population urbaine soit rempli sur le territoire.
Que fait le grand projet de ville aujourd'hui concrètement à Marseille ? Quelles actions sont entreprises ?
Donc sur le grand projet de ville a connu depuis 2 ans une notable évolution liée à la création de l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui a donc essayé de concentrer sur quelques territoires des moyens financiers importants, dont ceux de l'État, et qui a mis en place des procédures permettant effectivement d'obtenir des financements au niveau national, alors que jusqu'alors, le GPV comme le GPU travaillait sur des crédits qui étaient déconcentrés au niveau local et dont l'affectation était décidée au niveau local. Cela étant, on cherche quand même à garder le cap, à savoir que les quartiers qui rencontrent les principales difficultés soient des quartiers où se concentrent donc les moyens financiers que mettent tous les partenaires, puisque le GPV a effectivement l'originalité de regrouper l'ensemble des collectivités territoriales et l'État, l'ensemble des partenaires donc qui cofinancent des opérations, mais qui plus généralement essayent de mettre en commun toutes leurs compétences dans les divers domaines qui relèvent effectivement de leurs attributions pour faire en sorte qu'il y ait un projet global qui permette le développement urbain et social attendu sur ces territoires. Donc actuellement, on est effectivement depuis quelques temps sur la préparation d'un certain nombre de dossiers sur des quartiers d'habitat social, qui est la cible prioritaire de l'ANRU. On a des projets qui se poursuivent sur Plan Daou, où on a déjà, donc depuis la fin des années 90, largement engagé l'action de restructuration, mais action qui va se poursuivre donc au cours des prochaines années, sachant que par ailleurs, on a des projets qui visent à la fois la démolition de l'habitat social et la recomposition urbaine, la mise en place sur ces quartiers d'un certain nombre d'activités économiques, l'amélioration des aménagements publics, tous éléments qui vont notamment se manifester sur les Flamands et Gris, sur Saint-Paul, sur les Créneaux, sur la Savine, sur d'autres dames limites, sur un certain nombre de quartiers qui avaient été identifiés comme des quartiers appelant des réponses particulières. Par ailleurs, ce qui est sans doute plus éloigné des préoccupations actuelles de l'ANRU, le GPV continue à animer un certain nombre de projets, tels que les projets qui se développent sur les STAC, qui ne touchent pas à l'habitat social, mais qui cherchent précisément à développer les atouts, à valoriser les atouts dont bénéficient un certain nombre de ces quartiers. Bon, il y a déjà des choses qui ont été faites, la mise à l'eau publique, la promenade de l'Anlestac, le chantier d'un grand espace public appelé l'espace Mistral va démarrer. Donc c'est cet ensemble d'activités, même si l'identité du GPV n'apparaît pas sur tous les tableaux, que nous essayons d'harmoniser, d'animer, d'impulser.
D'accord. Et quel budget vous disposez sur le territoire marseillais pour mettre en forme ces actions ?
Les budgets à l'origine sur le GPV étaient de l'ordre, à l'époque c'était signé en francs, je vous laisse faire la conversion, de 800 millions de francs d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la création de l'ANRU, avec donc la mobilisation des moyens particuliers, les seuls projets qui vont être financés par l'ANRU sur le territoire du GPV représentent à eux seuls une masse financière de l'ordre de 800 millions d'euros, qui porte donc à la fois sur l'habitat, alors que le GPV, antérieurement, ne participait pas financièrement aux opérations d'habitat. L'ANRU, donc, ça porte avant sur l'habitat et sur les aménagements et équipements, comme le faisait auparavant le GPV.
L'amélioration des conditions de vie des habitants dans beaucoup de quartiers marseillais passe par l'amélioration du bâti. À présent, réveillons un peu vos neurones et écoutons Some Word du talentueux groupe marseillais Disturb. Nous revoilà dans l'émission Mon quartier pour la grande thématique de la journée sur Radio Grenouille, Bellevue Monument. Je pense que le pétillant groupe de rock marseillais vous a mis les idées au clair et que nous pouvons continuer sur la réhabilitation. Et pour amorcer le sujet, commençons par le définir. La réhabilitation, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme saugrenu? Ce sont tout simplement des travaux d'aménagement des logements. Cela recouvre la mise en conformité, les réparations destinées à la réalisation d'économies d'énergie ou de charges, le renforcement de la sécurité des biens ou des personnes, ou les travaux d'accessibilité. L'enjeu de la réhabilitation des cités en situation dégradée est double aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut répondre à une forte demande de logement social tout en évitant d'accentuer la ségrégation sociale. Il faut offrir un accès à la citoyenneté avec sa vocation à favoriser les échanges et contribuer à l'intégration. La réalité marseillaise est telle que de nombreux ensembles se retrouvent dans des conditions de dégradation avancée, rendant l'espace de vie insalubre et dangereux. Cependant, force est de constater que la question du logement social dans les Bouches-du-Rhône est un sujet complexe à gérer. Monsieur Méric, professionnel et homme de terrain à la ville de Marseille, apporte un éclairage sur la question brûlante de la réhabilitation des copropriétés en zone urbaine sensible.
Ce problème des copropriétés, il est apparu clairement à l'ensemble des pouvoirs publics petit à petit au cours des années 90. Alors la ville de Marseille a été particulièrement sensibilisée et elle a lancé toute seule des opérations expérimentales comme sur le parc Calisté ou le parc Bellevue où on essayait de se débrouiller avec les partenaires qu'on a trouvés, les syndics, les copropriétaires, les élus de secteur, la Caisse des dépôts, l'ANA, etc. Mais ce n'était pas des outils adaptés. Petit à petit, la réglementation a évolué et a permis d'avoir quelques solutions. Mais ce sont, il faut bien voir que ce sont des solutions exceptionnelles, avec des moyens exceptionnels et qui ne sont pas toujours adaptés à la situation de chaque copropriété. Chaque copropriété, je dirais, a une problématique particulière. Regardez par exemple certaines copropriétés dans lesquelles les propriétaires sont des propriétaires bailleurs pour qui tout va très bien. Puis vous avez des copropriétés dans lesquelles il y a des copropriétaires occupants qui sont dans une situation extrêmement difficile. Vous allez avoir des copropriétés aussi qui, par leur situation urbaine, vont avoir des difficultés un peu différentes de l'autre. Il y a des copropriétés qui ont des grands terrains, qui ont des grandes surfaces d'espaces verts. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc chaque fois, il va y avoir une réponse. Donc il n'y a pas de solution miracle pour toutes les copropriétés. Par contre, dès qu'on commence à s'intéresser à une copropriété, on le voit pour celles que j'ai évoquées, il faut vraiment une mobilisation importante de tous les acteurs de la copropriété pour parvenir à aller vers une solution. Bon, alors, toutes les copropriétés ne sont pas en difficulté. Si on arrive à faire prendre conscience aux copropriétaires eux-mêmes des difficultés ou des spécificités du fonctionnement d'une copropriété, si on arrive à les sensibiliser, eux et leurs représentants, les syndics, je crois qu'il y a déjà un grand pas de fait. C'est pour ça qu'une des voies qui est très active aujourd'hui et qu'on essaie d'encourager au maximum, c'est la formation des copropriétaires et des conseils syndicaux. Je vais vous donner un exemple. Moi, il m'est arrivé au début où on m'envoyait sur le terrain pour étudier ce genre de problème, de rencontrer des propriétaires occupants dans un immeuble en copropriété qui me disaient « Mais vous vous rendez compte, monsieur, regardez dans quel état sont les parkings. Regardez dans quel état est la cage d'escalier. Elle est jamais balayée et ils ne font rien. » Mais alors je disais à la dame, mais qui c'est il ? Ah mais moi je ne sais pas qui c'est il, la mairie, le département. En fait, il y a une mésinformation sur la connaissance du fonctionnement de ces copropriétés. Si c'est à chaque copropriétaire de se mobiliser, d'aller à l'Assemblée générale, de prendre part au vote. C'est une vraie leçon de démocratie, la copropriété. Il faut se mêler des affaires de la copropriété, il ne faut pas s'imaginer que le syndic peut tout régler tout seul. D'abord, il faut savoir que le syndic n'agit que par mandat de l'Assemblée générale. Donc, c'est l'Assemblée générale qui définit les missions du syndic. Si vous payez un syndic 3 francs 6 sous, il va vous en faire pour 3 francs 6 sous. Tout le monde dit que les syndics sont malhonnêtes. Il y en a certainement qui le sont, mais c'est pas vrai. Ils ont simplement des moyens extrêmement limités. On le comprend, une copropriété qui est pauvre, elle essaie de limiter ses dépenses de syndic, c'est légitime. Mais le syndic, il fait ce qu'il peut avec l'argent qu'on lui donne. Quand on lui donne de l'argent pour aller faire une réunion par mois, ben il en fait pour une réunion par mois. Par contre, si des propriétaires se mobilisent pour seconder le syndic, pour l'aider à passer les appels d'offres, pour examiner les problèmes, pour aider à l'application du règlement intérieur d'une copropriété, là, ça peut énormément améliorer les choses. Les copropriétés, elles ont un règlement, hein, le règlement de copropriété qui fixe les règles de base, les millièmes correspondant à chacun des logements, mais elle peut aussi se doter d'un règlement intérieur qui va dire ce qu'on autorise de faire, ce qu'on n'autorise pas de faire dans la copropriété. Promener les chiens ou pas promener les chiens, accepter qu'une profession libérale s'installe ou pas, rappeler aussi qu'il ne faut pas étendre son linge ou qu'il ne faut pas faire de bruit dans la cage d'escalier. C'est du ressort des copropriétaires de faire appliquer ce règlement.
Et en définitive, les copropriétés, la réhabilitation repose sur la sensibilisation des propriétaires. Oui. C'est bien ça ?
Oui, bien sûr, mais évidemment, quand la situation est trop alarmante et quand les copropriétaires ne peuvent pas parvenir à cette réhabilitation et quand cette réhabilitation participe à un projet urbain, hein, on l'a vu pour les copropriétés pour lesquelles j'ai évoqué, il se peut que les élus décident de mettre en place un plan d'action, on appelle ça un plan de sauvegarde, hein, et participent financièrement ou alors participent de façon opérationnelle à la réhabilitation de la copropriété. Mais de toute façon, c'est toujours dans le cadre d'une relation partenariale avec les propriétaires, parce qu'on ne peut pas admettre qu'on aille donner à certains propriétaires à Marseille des subventions et puis que d'autres restent comme ça sans rien. Donc il y a toujours un engagement de la part des copropriétaires, notamment dans la remise en marche de l'Assemblée générale et des conseils syndicaux.
Aujourd'hui, le collectif Intercopropriété tente d'informer, de sensibiliser les propriétaires pour les amener à mieux vivre ensemble dans le quartier. Magali Launay, chargée de développement, explique les ambitions de l'association et les actions mises en œuvre pour parvenir à donner une autre vision de ce quartier.
Tout d'abord, les outils qu'on propose, donc c'est effectivement de la formation, mais c'est aussi des outils un peu différents, comme le livret du résident, qui est un petit document d'information destiné à tous les résidents des copropriétés. Ça synthétise les bonnes règles de vie en voisinage. Ça fait aussi le point sur les droits et devoirs aussi bien des copropriétaires que des locataires. Et puis c'est aussi ça doit être le point de départ de débats, de discussions entre les habitants pourquoi pas d'animation, d'organisation de fêtes du voisinage. Bon, on connaît la fameuse fête des immeubles. On peut aussi imaginer que ça se passe en dehors de ça. Donc le livret doit être vecteur de bon vivre ensemble sur la copro. Du point de vue du résultat de cet outil est diffusé en fait sur toutes les copropriétés en plan de sauvegarde de Marseille. Donc pour les rappeler, c'est Bellevue, c'est Le Mail, c'est Les Rosiers, Calisté, je crois que j'ai fait le tour. Pour vous donner quelques exemples, sur Bellevue, on travaille avec le centre aéré, avec les enfants, pour les sensibiliser au respect de leur quartier. Ça passe par la création d'un jeu de loi sur le thème du vivre en bon voisin. Et puis de la connaissance un petit peu du quartier. Sur le Mail, on engage un travail avec une association qui est présente sur le site, Argument, pour réaliser une maquette de la copropriété à partir de matériaux de récupération. C'est une action qui a déjà été menée sur Calisté l'an dernier avec succès. Donc on avait travaillé un petit peu avec l'architecte du plan de sauvegarde. C'était plutôt sympa, les enfants l'avaient rencontré, avaient expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient. Bon, voilà. Donc c'est l'objectif, c'est vraiment parler de la copropriété, parler du quartier, peut-être parfois essayer de dédramatiser aussi un peu les choses pour faire en sorte de retourner vers... Parce que bien souvent, les habitants aiment quand même l'endroit où ils vivent, notamment les copropriétaires occupants, ceux qui restent dans ces copropriétés-là, ceux qui ne sont pas partis. C'est important que les copropriétaires soient en mesure de réinvestir les structures de fonctionnement de la copropriété, à savoir le conseil syndical, mais il faut aussi créer de la vie.
Et voilà maintenant quelques informations que vous ne devez pas manquer. À Marseille, il existe 29 copropriétés classées en zone urbaine sensible. La majorité des logements sociaux sont concentrés dans les quartiers nord, c'est-à-dire 2e, 3e, 13e, 14e et 15e arrondissement. La partie est de la ville concentre également une partie des logements sociaux. Elle concerne les 9e, 10e et 11e arrondissements. Aujourd'hui, des plans de sauvegarde sont mis en place depuis 1999 et parviennent à réhabiliter la cité. Le point négatif, c'est que ce sont des procédures lourdes qui durent 8 à 10 ans. Le conseil départemental de concertation au conseil régional fait des propositions. Il souhaite maintenir sa politique volontariste dans le domaine du logement. Il pense apporter une aide aux associations œuvrant dans les copropriétés dégradées. Il considère les habitants des copropriétés en difficulté comme relevant du logement social et ambitionne de leur fournir les mêmes aides que celles du secteur locatif HLM. Dernièrement, a germé une idée dans ce conseil départemental, il souhaite créer un observatoire pour les copropriétés privées dégradées. Dans ses perspectives, la réhabilitation et les volontés des habitants de participer à la transformation de leur quartier est encadré par un cadre juridique, la loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU. La loi Solidarité Renouvellement Urbain, les termes juridiques qui font peur à tout le monde mais qui régissent notre vie quotidienne. La loi Solidarité Renouvellement Urbain, c'est l'aboutissement d'un débat national qui a été lancé en 1999 autour du thème « Habiter, se déplacer, vivre en ville ». Il a fait ressortir la nécessité d'assurer une plus grande cohérence entre les politiques d'urbanisme et de déplacement. La ville aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 50 ans. Elle englobe des enjeux nouveaux. Aujourd'hui, il faut lutter contre la périurbanisation et le gaspillage de l'espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter à la mixité sociale, de belles idées. Aujourd'hui, cet encadrement rigoureux, il est appuyé par la création d'une agence nationale pour la rénovation urbaine qui simplifie et accélère les démarches des collectivités locales et des bailleurs sociaux. L'Agence nationale de la rénovation urbaine. Elle réunit l'État, l'Union d'économie sociale du logement, l'Union sociale pour l'habitat, la Caisse des dépôts et des consignations, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et enfin des régions. Pour la période 2004 à 2011, ce projet envisage la réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux et la démolition pour des raisons de vétusté de 250 000 de ces mêmes logements. Alors quelle fiabilité pour les nouveaux dispositifs mis en place par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Monsieur Deschaux, responsable du projet sur la ville de Marseille, donne son avis.
À l'origine de la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, il y avait une idée portée par le ministre Borloo selon laquelle l'une des difficultés principales que rencontraient les projets de requalification était qu'il y avait une source de financement, des sources de financement trop dispersées. Donc l'idée de la loi de d'août 2003 créant l'Agence de rénovation urbaine était de rassembler donc au niveau national des financements multiples qui auparavant étaient distribués par l'État sur ses crédits de droit commun, dirons-nous dans notre langage technocratique, les crédits dont pouvaient disposer les collecteurs du 1%, les crédits de l'Union sociale de l'habitat, les crédits de la Caisse des dépôts et consignations, de faire un ensemble de ces crédits-là, les crédits de l'Association foncière logement également, de faire un ensemble de sorte que les projets puissent avoir une capacité de financement plus lisible. L'idée était aussi de donner à ces projets une garantie de financement pluriannuelle, ce qui, selon certains, n'existait pas par le passé. Et donc, les lois des finances successives doivent normalement honorer donc, les engagements que prend l'ANRU. Et tous les projets qui sont validés au niveau de l'Agence nationale de la rénovation urbaine font l'objet d'une convention, une convention pluriannuelle de financement qui offre effectivement la garantie de la permanence du soutien pendant toute la durée du projet, bien évidemment avec l'ANRU puisque c'est un principal partenaire, mais également qui associe l'ensemble des cofinanceurs et notamment toutes les collectivités territoriales. Sur Marseille, c'est donc bien l'ensemble des collectivités, la ville, la communauté urbaine, le département, la région, qui participent à ces opérations financées avec l'ANRU. Ce partenariat local organisé se fait précisément dans le cadre du groupement d'intérêt public du GPV.
Après avoir posé les bases des concepts et des dispositifs qui planent dans l'environnement du quartier, entendu les professionnels sur la question des copropriétés en zone urbaine sensible, orientons-nous à présent au cœur de celui-ci. Qu'appelle-t-on quartier? Qu'est-ce que ce terme recouvre? Comment vit-on à l'intérieur? Quelle est sa plaque tournante? Nous traiterons ces questions juste après une petite pause musicale avec l'idole Franz Ferdinand. Et nous revoilà dans l'émission Mon Quartier pour la grande thématique de la journée sur Radio Grenouille, Belle Vue Monument. Alors qu'entend-on exactement par quartier? Pour les enfants, c'est un chemin auquel on a attribué le nom d'une personne célèbre. C'est un ensemble de rues où il doit y avoir à manger, par exemple un marché. C'est un lieu où il y a souvent une église, une école, une rue principale. C'est une partie d'une ville, un endroit où les rues ne nous sont pas étrangères et qu'on aime bien. Le dictionnaire est pour sa part beaucoup moins rêveur et poétique. Pour lui, le quartier est une division administrative d'une ville ou d'une partie d'une ville ayant sa physionomie propre et une certaine unité. Les enfants n'ont pas tort. Généralement, le quartier existe lorsqu'il y a des commerces, des écoles, collèges, lycées, rues principales, églises et, sans oublier, le fameux parc. Les loisirs, les initiatives culturelles constituent des piliers importants pour les quartiers. Ainsi, généralement, des clubs de foot, de tennis, de basket, de théâtre, de dessin, voire de danse sont présents pas très loin de chez vous. Le quartier, c'est la proximité, le lieu de connaissance, le lieu de sûreté, la protection familiale et amicale. Certains ne bougent que très rarement des limites administratives de leur quartier. « Nous n'en voyons pas l'utilité », répondent-ils. Ici, au quartier, ils connaissent tout le monde. Ils sont dans leur univers. À Marseille, l'esprit quartier est encore très présent. À quelques mètres de sa porte, il y a la tante Natacha. Plus loin, le cousin Raymond. Sur le boulodrome, les anciens. Et dans le parc, le rendez-vous nocturne des amis. Tout un programme. Alors à qui appartient le quartier et peut-on accompagner ces transformations en tant qu'habitant? Pour résoudre ces interrogations, M. Chabani, responsable du collectif Bouge Caliste, a répondu à nos questions.
On a toutes les activités, mais c'est vrai, l'activité principale, c'est le foot, que vous savez tous dans tous les quartiers. Mais on a quand même quelques activités. On essaie quand même de développer le handball, qui est difficile puisqu'il coûte cher au plan du championnat. Puisqu'on fait des animations hand, tout ça, mais on n'arrive pas à fédérer une équipe dans le championnat puisque ça coûte cher. On n'a pas trop le moyen. Par contre, le foot, c'est moins cher et c'est facile à s'engager. Bon. Après, on fait des sorties avec les jeunes de temps en temps. C'est vrai, on a un problème financier, mais on essaye quand même de faire quelques sorties cinéma. Cinéma, sorties plage, et des activités qui sont gratuites. On a aussi un partenariat avec l'ADA pour qu'ils travaillent plus, beaucoup avec nous, qu'ils essayent de temps en temps, comme cet été, de faire sortir un peu quand même des jeunes qu'ils ont profité avec l'encadrement de l'ADAP de sortir dans les quartiers. Comme on n'avait pas le moyen financier, c'est l'ADAP qui a pris le relais, mais c'est un partenariat avec Bouge Caliste.
Et est-ce que vous menez des actions visant à l'amélioration des conditions de vie des habitants dans votre quartier?
C'est vrai, il y a une activité qui est déjà mise en place, ça fait 5 ans, qui s'appelle Caliste Propre, qui est menée par l'association de locataires comme partenaire. Nous, on est dedans, on travaille avec eux tout au long de l'année, mais c'est eux qui ont mené le projet. Mais c'est vrai, c'est les jeunes, la plupart, c'est les jeunes de Bouge Caliste qui font le plus, qui encadrent, puisque c'est eux qui sont là sur place, c'est eux qui ramassent et qui encadrent aussi les petits qui sont ramassés, c'est les animateurs, puisque Bouge Caliste, ils sont amenés par plusieurs jeunes quoi, de quartier. Quoi. C'est tous les jeunes du quartier.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les habitants s'impliquent assez dans la réhabilitation de leur cité? Et dans le but d'améliorer leur quotidien?
Non, pas tellement, puisque c'est vrai, au début, on a bien démarré. Quand on a eu la proposition de plan de sauvegarde, on était tous mobilisés, tous les habitants, toutes les associations. En fait, mais ça a été théoriquement, ça a été très long. Et on a perdu espoir, et tous les habitants, ils ont perdu espoir, puisque ça fait des années qu'on en parle. Et là, c'est vrai, cette année, ça commence à parler. Mais maintenant, tous les habitants qui étaient mobilisés, qui étaient motivés, ils sont un peu démobilisés, puisqu'ils n'étaient pas, en fait, ils n'avaient pas confiance. Ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai, tout ça. Mais là, c'est vrai, maintenant, ça commence à travailler un peu et ça a commencé à mobiliser aussi plus de parents qui s'intéressent, puisqu'on a commencé à voir quelque chose.
Donc l'avenir s'annonce sous de meilleurs auspices?
Oui, je crois que ça s'annonce, puisque... Pour la première fois, il nous a écoutés, puisque en fait, quand on a fait le cahier de charge de plan de sauvegarde, on a mis quelques points importants de développement du quartier, et le plan de sauvegarde ne nous a pas suivi, ne nous a pas écoutés. Ils ont fait le projet comme ils ont entendu, ils ont voulu faire. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ne nous ont pas suivi notre cahier de charge. Et là, je crois qu'ils sont venus en arrière, puisqu'on avait parlé de réaménager les espaces extérieurs pour que les jeunes puissent avoir des endroits pour jouer, tout ça, avant de réaménager les appartements et les meubles. Parce qu'on sait que quand tu fais un ascenseur, mais un petit qui sort de l'école, qui après l'école, il n'a rien à faire, il n'a pas d'endroit pour jouer, il joue avec les ascenseurs, il joue avec les escaliers, il joue avec la peinture, il joue avec le truc. Et là, ils ont mis en place un polysport qui est en cours de construction, qui peut-être va finir dans 2 mois. Et là, je crois que les choses vont changer. Il y aura pas mal de jeunes sur le terrain au lieu dans les entrées des immeubles.
Merci beaucoup, Monsieur Chabani.
Madame Daffané, habitante de la cité La Caliste, tente pour sa part de décrire le quotidien au quartier.
Oui, bonjour. Dans le quartier, bon, on vit comme on vit, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Parce qu'on ne vit pas bien. Parce que là, il y a manque des ascenseurs. Les enfants, ils n'ont pas d'endroit pour jouer. Même si c'est maintenant qu'ils commencent à faire quelque chose, mais ça fait longtemps qu'on attend ça. Et puis, voilà, dans des immeubles qui ne sont pas bien du tout. Il y avait les ascenseurs. Un jour, ça marche. Le lendemain, ça ne marche pas. Et puis, franchement, le quartier, on vit parce qu'on n'a pas le choix.
Aujourd'hui, est-ce que vous essayez, par des initiatives, d'améliorer ce quotidien et de vous permettre d'envisager une vie plus tranquille au sein de votre quartier?
Oui, bien sûr, on essaye de faire comme il a dit Rizama Chabani. Bon, maintenant, nous, les familles, nos mamans, on essaye d'appliquer les enfants, à arranger un peu le quartier, à respecter les endroits, à vivre mieux comme les autres. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on laisse, on ne le fait pas, à attendre les autres pour le faire. Et c'est nous qui vivons, c'est à nous de le faire, c'est à nous de réagir. Et là, maintenant, ça commence à aller bien parce que les familles commencent à s'appliquer, comme le projet La Caliste Propre commence à... Les mamans, maintenant, commencent à s'y mettre. Avant, c'était que les jeunes, les enfants, tout ça qui font ça. Mais maintenant, tout le monde s'y applique pour améliorer le quartier.
Alors aujourd'hui, vous pensez que les jeunes ont vraiment assimilé le message qu'il faut conserver un quartier dans un bon état pour s'y sentir bien?
Oui, je vais dire que oui, ils ont compris parce que maintenant, leurs grands frères, quoi. À partir des 17-18 ans, les grands commencent à dire aux petits de faire attention à ça. De ne pas les jouer n'importe où, de leur montrer, on leur fabrique un peu le terrain, le gymnase, d'aller jouer là-bas, de ne pas jeter des saletés par terre. Bon, je crois que maintenant, ça commence à aller mieux parce que maintenant, le quartier commence à s'améliorer, à vivre, à respirer, un air frais, quoi.
Au cœur du quartier, le centre social est le symbole des initiatives combinées des habitants et des professionnels. Lieu de proximité où s'effectue un travail de solidarité, d'animation et de valorisation du quartier, le centre social porte les habitants dans des démarches actives diverses. Il peut se concrétiser par des repas entre voisins, vous l'avez sûrement déjà fait vous, des actions de réhabilitation des bâtiments, comme dernièrement au parc Caliste où une quinzaine de jeunes se sont mis à réhabiliter les portes d'entrée pour améliorer leurs conditions de vie. Fantastique. Le centre social coordonne toutes les bonnes volontés pour donner une âme à un lieu de vie. Voilà sa définition, voilà son sens, voilà son objectif. Pour comprendre quelle place occupe un centre social dans un quartier en zone urbaine sensible, M. Chabani nous livre à nouveau ses impressions.
Le centre social, c'est vrai, on avait des problèmes, puisque le centre social, on appelle ça centre social Caliste La Garnière, mais il est un peu à La Garnière. Est-ce que les jeunes ou les gens ou les parents de Caliste, pour eux, il se trouve que le centre, il n'est pas à eux, quoi. Ils n'étaient pas trop dans ce centre social. Mais c'est par rapport aussi à la politique qui était avant. Mais là, ça fait 2 ans, on a un nouveau directeur, on a un nouveau centre social, on a un secteur jeune qui marche et qui a retravaillé et qui ont travaillé. Et là, je crois, le centre social commence à prendre une image du centre social Caliste La Garnière. Mais les années passées, je vais dire, puisque moi aussi je travaille un peu au centre social dans toutes les vacances, maintenant je commence à voir des jeunes qui viennent de Caliste, qui s'inscrivent au centre social, qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et je crois que le centre social, maintenant, il prend un rôle très important. Il faut qu'il continue comme ça. Parce que là, on a mélangé, on a montré que le centre social appartient de Caliste La Garnière, mais ce n'est pas de La Garnière. Par contre, avant, ça a été de La Garnière. Maintenant, on a des parents, il y a les familles qui font des réunions au centre social, on a pas mal de groupes de familles qui participent aux activités familiales du centre social, on a les jeunes moins de 17 ans qui participent, on a les petits qui vont s'inscrire au centre aéré, qui n'était pas le cas avant. Bon, je crois que le centre commence à prendre un rôle très important dans le quartier.
Donc, impossible d'imaginer la cité Caliste La Garnière sans centre social aujourd'hui?
Je crois que c'est impossible, ouais. Puisque sans le centre social, malgré tous les moyens qu'ils ont, le minimum moyen, puisqu'ils n'ont pas aussi les moyens, puisque le centre social est limité à 80 enfants, et pourtant qu'à Caliste, on a, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire, et qu'il y a des parents aussi, jusqu'à maintenant, ils râlent pour avoir un an, juste pour s'inscrire, pour inscrire les petits. Je ne sais pas si ça va améliorer, mais quand même, il tient quand même un rôle très important dans le quartier.
Voilà, notre émission Mon Quartier touche à sa fin. J'espère que vous avez compris un peu plus les concepts de politique de la ville, de réhabilitation et la loi Solidarité Renouvellement Urbain. Merci beaucoup, à bientôt.